9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Emmanuel Rubin.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous avez fait l'ESJ de Paris, dont vous êtes sorti major. Oui. Je le dis parce que je l'ai lu dans ce nouveau trimestriel que vous lancez, Geste. Il est écrit ça à la suite de votre portrait, ou plutôt dans votre portrait. Geste, avec un S à la fin et un slash. C'est un nouveau trimestriel consacré aux métiers d'art. C'est en kiosque, 20€, dont vous êtes co-rédacteur en chef, avec Yamina Benahi. Magazine assez unique. Ce trimestriel consacré à ce thème, les métiers d'art, ça ne ressemble à rien de ce que le grand public connaît. Comment le présenter, ce magazine ?
Eh bien justement, simplement par ces métiers d'art, ces savoir-faire d'excellence. C'est près de 280 métiers qui sont réunis, c'est unique. J'allais presque dire dans le monde, hein, c'est pas propre à la France, mais pas loin. Les métiers d'art, c'est tous les métiers, bien sûr, du bois, du verre, du cuir, des jardins, c'est de la gastronomie. C'est assez vaste, c'est assez large. Ça concerne les arts de la table, ça concerne notre quotidien, ça concerne bien sûr le mobilier, la mode, la parfumerie. Et jusqu'à présent, aucun magazine, aucun média n'était intéressé à les raconter le plus longtemps possible et le plus souvent possible, et les raconter dans leur actualité, à la fois aussi dans leur patrimoine, puisque ce sont des métiers souvent qui renvoient au passé, au savoir-faire, mais aussi dans leur actualité contemporaine, parce que ce sont des métiers qui sont très innovants, qui réfléchissent à notre quotidien, à l'utile dans notre quotidien. Il n'y avait pas de magazine pour les accompagner.
Innovant et aussi très très ancien.
Bien sûr.
Je vais commencer par un long papier que vous faites, absolument somptueux. Je dois dire que le magazine, c'est un dos carré, il est très épais, avec du beau papier, 192 pages. Il y a un long article, peut-être unique, qui est consacré à la réfection du grand orgue de Notre-Dame après l'incendie. L'orgue n'a pas été atteint, mais quand même, il a fallu remettre les pièces en état. Les tubulures, les tuyaux, il y a tellement de termes, je ne vais pas tous les citer,
voilà,
ont été retirés. Il y a toutes sortes de professions qui travaillent autour. Je ne pensais pas que c'était pointu à ce point. C'est des métiers d'avenir et des métiers anciens. Je vais citer un passage. C'est un artisan qui raconte. Puis nous étanchéifions la colle à la colle chaude, entre parenthèses, os et nerfs. Donc on fait de la colle avec des os et des nerfs, ça change de la superglue. Et nous renfermons ces gravures avec de nouvelles peaux d'agneau qui seront enduites de colle de lapin à l'ocre rouge. Et plus loin, on apprend que les joints doivent être taillés sur mesure dans un feutre résistant qui s'appelle le Casimir et fixés avec de la colle de peau de poisson. Qui a encore ce savoir-là ?
Pour beaucoup, peu de métiers. Et c'est d'ailleurs l'une des enjeux de ce magazine, c'est que tous ces métiers sont des savoir-faire parfois ancestraux et qu'ils sont parfois en train de disparaître, justement parce qu'il n'y a pas la transmission. Alors aujourd'hui, ça change peut-être, parce qu'il y a des gens qui ont envie de revenir à des métiers de la main. L'État ou les pouvoirs publics essaient de travailler à l'orientation, à l'apprentissage, mais c'est vrai qu'il y a une grosse déperdition. Et heureusement qu'il y a encore des savoir-faire, des artisans que nous allons essayer de débusquer, parce que eux, leur plus grande inquiétude, justement, c'est comment demain leur métier va se poursuivre et finalement se poursuivre et donc évoluer, parce que là, on parle de techniques qui sont très anciennes, mais il faut savoir que ces métiers-là, aujourd'hui encore, sont quasiment des métiers dans la recherche-développement, c'est-à-dire qu'ils inventent des nouvelles techniques, voire des nouvelles matières. Alors, sur ce sujet-là, c'était ce qui a décidé aussi en partie du magazine. Il y a plein de choses, parce que la sociologie a beaucoup changé. Je crois que les gens retrouvent le goût de donner du sens à leur métier. On parle beaucoup, vous savez, de reconvertis, de deuxième vie, des gens qui arrêtent pour aller faire de la gastronomie.
Je souris parce qu'ici, on est émission média, il y a un type qui bossait dans l'animation, dans les médias, et qui maintenant fait des couteaux, dont vous dressez le portrait sur deux pages.
Exactement. Mais c'est hallucinant de voir comment c'est rentré dans l'esprit. Alors, ils ne réussissent pas tous à se réenchanter, mais au moins, ils en ont l'envie. Dans le même temps, on voit bien qu'il y a un besoin, peut-être aussi, de redonner et de redorer le blason de la technique, de l'apprentissage. Vous ajoutez à ça des maisons qui, aujourd'hui, communiquent sur leur savoir-faire, là où, il y a 20 ans, ils ne faisaient pas. Par exemple, dans le luxe, il y a quelques années, il y a 20 ans, il ne fallait pas trop communiquer sur la coulisse. Mmh. On ne racontait pas trop comment on fabriquait les choses. Aujourd'hui, dans la joaillerie, dans l'horlogerie, dans la mode, on communique beaucoup sur ce savoir-faire. Dans la cuisine, on planquait les cuisines, aujourd'hui, on les ouvre.
Sans faire le marxiste, on voulait aussi peu communiquer, puisque je me souviens qu'il y avait quand on regardait combien coûtait une robe et combien étaient payées les ouvrières, les grandes marques n'avaient pas très très envie qu'on aille voir ce qui se passe en back-office.
Exactement, parce que tout ça renvoie aussi à des enjeux sociaux et sociétaux. Les choses ont évolué, il y a encore beaucoup d'évolutions à faire. On le voit dans un univers comme la cuisine, la gastronomie. Encore une fois, pendant des années, on a planqué les cuisines. Aujourd'hui, elles sont ouvertes dans les restaurants. Et puis, il y a encore beaucoup à faire, mais les choses ont évolué aussi dans le métier, à la fois dans ses conditions de travail et puis dans son salaire. Il y a encore beaucoup à faire, mais bon. Et il y a eu cette instant de Notre-Dame, lorsqu'elle a brûlé. Bien sûr, c'est une dimension symbolique du sacré qui a atteint beaucoup de gens, mais on a vu aussi que c'était un formidable caisse de résonance de tous ces métiers-là. Mmh. Et aujourd'hui, elle est en train d'être restaurée. Il y a je ne sais combien de métiers qui vont intervenir, et nous, on raconte entre autres les grandes orgues, mais tous les trimestres, on racontera un métier qui raconte cette Notre-Dame renaissante.
Je rebondis sur un mot que vous venez de dire, et je le cite parce que vous l'avez dit, mais vous ne l'avez pas écrit. Dans l'édito, un mot manque, luxe. Pour quelle raison ? C'est pas du luxe ?
Si, c'est en partie le luxe. Alors,
on l'a pas dit, c'est volontairement qu'ils ne veulent pas le citer.
Pas du tout, parce qu'il intervient partout ailleurs, on aurait pu le mettre. On doit beaucoup d'ailleurs dans ce magazine aux maisons de luxe et on les remercie. Aujourd'hui, elles ne sont pas les seules, mais elles sont, c'est vrai, dans la mode, dans la joaillerie, dans l'orfèvrerie, dans l'horlogerie, les grands vecteurs de ces métiers d'art.
Évidemment.
Une maison comme Hermès, une maison comme Dior, une maison comme Chanel, je pourrais en citer beaucoup d'autres. Sans ces maisons-là, une maison comme Vuitton, il n'y a plus ces métiers d'art. Elles sont d'ailleurs tellement fortes et prégnantes qu'aujourd'hui, elles travaillent elles-mêmes à leur propre formation. C'est Hermès qui va, à la rentrée prochaine, créer un diplôme certifiant pour certains métiers, notamment du cuir. C'est bien sûr Louis Vuitton qui est en train de créer une école des métiers d'art. Donc le luxe n'est pas le seul qui active ces métiers d'art, mais il est très important et pour nous, il est capital.
Il n'y a pas besoin de ça pour un t-shirt qui arrive d'Asie à 1 euro le t-shirt.
C'est bien ce qu'il faut bien séparer le bon grain et le livret.
On est bien d'accord.
Qui se dit luxe ?
Alors, qui est votre public ? À mon avis, ce sont des gens plutôt cultivés, plutôt lettrés, plutôt aisés. Geste avec Emmanuel Rubin. On continue d'en parler. On va aussi parler de votre activité parce que vous allez débouler. Vous avez déboulé déjà un peu sur Europe 1 avec l'ami Laurent Mariotte. À tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie d'Emmanuel Rubin, il est l'un des deux rédacteurs en chef de GES, ce nouveau trimestriel qui sort en ce moment. 20 euros, 192 pages, trimestriel consacré aux métiers d'art, au savoir-faire d'excellence et à la création contemporaine. À qui vous adressez-vous ? Qui est votre public ?
Alors notre public, effectivement, c'est un public qui, à mon avis, est un public de passionnés. Alors, soit parce qu'il a déjà cette passion, il a la culture qui l'accompagne, soit il ne l'a pas, mais il aspire à. Parce que justement, il a envie de donner du sens à ses objets, aux gestes, à la main. Il faut savoir que, bien évidemment, on pourrait dire qu'il a un certain âge. Je ne sais plus tellement ce que ça veut dire aujourd'hui, un certain âge. Parce que nous, on s'adresse énormément...
Moi, j'allais surtout vous dire, il a un certain niveau d'éducation.
Ça, c'est sûr.
Alors,
mais que... il ne l'a peut-être pas complètement, il aspire à l'avoir. Et c'est pour ça qu'un magazine est fait. C'est aussi, non pas pour éduquer, mais un petit peu pour ouvrir les esprits.
Je veux dire, ce qui m'a frappé, moi je viens de la presse écrite, et dans un article de presse écrite, je raconte ça aux profanes, pour attirer le lecteur, on met ce qu'on appelle des encadrés, c'est-à-dire quelques lignes en gros caractères qui donnent envie d'en savoir plus, d'entrer dans le papier. Exemple d'encadré, il est consacré à un créateur britannique du 19e siècle, il s'appelle William Morris. Et voici ce qu'est l'encadré. On exècre collectivement l'art tel qu'il s'enseigne à la Royal Academy de Londres, aussi factice qu'irresponsable. À l'inverse, la probité et le noble réalisme des primitifs constituent l'antidote parfait au poncif d'atelier et au matérialisme stérile. Waouh, faut s'accrocher.
Oui, alors là,
on s'adresse pas à la France d'en bas.
Non, pas forcément. Je ne sais pas si c'est la France d'en bas ou la France d'en haut. Ça s'adresse à un public
si j'étais perfide,
cultivé.
Si j'étais perfide, je voudrais résumer-moi ce que je viens de dire.
Bon, là, ce serait difficile parce qu'en plus, je connais. Mais oui, c'est certainement un profil de personnes cultivées. Mm-hmm. Mais nous, moi, je le revendique pleinement. C'est quand même pas une tare aujourd'hui que d'avoir de la culture. Et j'allais dire, même dans le journalisme, d'avoir des phrases qui font plus de trois lignes. C'est possible aussi. Hein.
Et je ne vous le reproche pas. C'est un public qui a les moyens également. Charles Balleret, j'en parlais tout à l'heure. C'est ce type qui travaille dans les médias, dans l'animation, qui maintenant fait des couteaux à la main. C'est la dernière ou peut-être la première coutellerie de Paris. Le premier prix, c'est 230 euros le couteau, 390 le lot de 6. On regarde avant de le mettre au lave-vaisselle.
Bien évidemment, maintenant, c'est des couteaux qui ont... D'abord, c'est des couteaux uniques. Mmh. Faut bien le savoir, ce sont souvent des pièces uniques. C'est un travail, là où intervient les fers ou les tins ou les... Mmh. Beaucoup de choses, le bois, le tuyau. Enfin, c'est très compliqué, le métier de la coutellerie. Donc, c'est un métier, c'est un couteau qui, non seulement va vous suivre une vie, mais que vous pourrez peut-être demain transmettre. Ce sont des objets. D'ailleurs, le titre du magazine, la première thème, c'est « Derrière l'objet, l'humain ». On explique que derrière tous ces objets-là, il y a une âme, il y a un sens. On n'est pas justement dans le futile. On est dans l'utile, mais lorsqu'il est incarné.
20 euros, c'est quoi le business model ? Vous êtes aidé par une fondation ou est-ce que les ventes et les abonnements vont suffire à équilibrer ?
Les ventes et les abonnements ne suffiront pas. On espère en avoir beaucoup. Mais bien évidemment, comme la plupart d'ailleurs des magazines, il faut bien le dire aujourd'hui, on a besoin, nous derrière, de publicité. Mmh. Et donc là, les maisons de luxe, je dois saluer celles qui nous ont accompagnés, mais aussi effectivement des fondations. La fondation Bettencourt-Schuller qui a eu cette phrase un jour extrêmement extraordinaire qui a parlé de l'intelligence de la main et qui chaque année remet des prix aux plus beaux artisans, jeunes artisans, pas simplement jeunes d'ailleurs, de tous ces métiers-là. Mmh. Et bien la Fondation Bettencourt-Schouler nous accompagne sur geste. Mmh. C'est grâce à elle notamment qu'on a pu faire ce reportage et cette série de reportages sur Notre-Dame. Donc on a besoin effectivement d'être un peu mécéné.
Je précise que la revue a été lancée par le groupe Beaux-Arts, Beaux-Arts et compagnie, Beaux-Arts Magazine, pardon, qui est le mensuel culturel le plus vendu en France. Et c'est pas rien. Vous avez une sacrée carrière, je l'ai dit. Vous êtes sorti major de l'ESJ. Vous avez été à la tête, une des têtes pensantes des éditions Jaloux, qui édite des magazines de mode. L'Optimum, l'officiel Homme, Jalouse, a été également chroniqueur gastronomique au Figaro, Figaroscope, cofondateur du Fooding avec Alexandre Camas, qui avait dépoussiéré la perception de la gastronomie. Et la gastronomie, à la rentrée, vous avez rejoint Europe 1. Avec la nouvelle émission de l'ami Laurent Mariotte, La Table du Dimanche, votre rôle c'est lequel ?
Ah ben moi, c'est vraiment une table du dimanche, comme ça que Laurent l'a voulu. Alors il y a plusieurs invités, toujours un chef et puis deux invités. Et moi je suis celui qui va venir faire une ou deux chroniques, qui met parfois un petit peu du vinaigre dans la conversation, qui invite par exemple la politique à table, comme ça, ça... Mais c'est surtout une histoire d'amis et j'ai accepté parce que c'est Laurent Mariotte. Hein.
Exemple de vinaigre déposé sur la tête des convives par Emmanuel Rubin.
On peut dire qu'à partir de 2007 et de l'arrivée de Nicolas Sarkozy, la droite devient une droite plus libérale, plus contemporaine, plus européenne, plus mondialiste. Et là, elle sort un peu de ce côté droite cassoulet, droite rillette. Sarkozy, c'est pas un passionné de la table.
Non, fromage blanc, 0%.
Exactement, fromage blanc, 0%. Donc la droite, elle essaye de justement sortir de ce côté un peu traditionnel pour dire qu'elle est beaucoup plus contemporaine. Et c'est nos amis suisses qui a à peu près la même vision de la droite, et il l'appelle la droite hamburger. En fait, c'est une droite qui a le pouvoir, qui est aux affaires, qui est aux commandes, qui, dans la coulisse, aime les soupers fins et les grands restaurants, mais va un peu singer les manières contemporaines et les manières du peuple en mangeant des hamburgers. Alors, ces derniers mois, on a essayé de parler de droite sushi, mais ça n'a pas pris du tout.
Ben voilà.
Vous savez d'où vient l'expression « droite cassoulet »
La droite cassoulet, alors celle-là, je connais plus l'expression gauche caviar. La droite cassoulet, j'ai eu du mal à définir.
Je vais vous le dire, c'est une invention de Bernard Mabille, l'humoriste.
Oui.
Et c'était au moment où Nicolas Sarkozy était président avec toute sa cour. Et c'était une petite saucisse avec plein de faillots autour. Je la cite de mémoire.
Elle est géniale.
Emmanuel Rubin, c'est vous qui avez lancé il y a près de 30 ans la bistronomie par opposition à une gastronomie pesante et compassée. Vous dites que désormais, même dans les bistrots, il y a autant de clichés qu'autrefois dans les grands restaurants dits classiques.
Ben, je pense qu'on arrive à la fin d'un cycle. Effectivement, il y a 30 ans, le bistrot était un genre fatigué, notamment à Paris, mais pas seulement, les gens n'y allaient plus. Et il y a toute une génération, on connaît Yves Candebord, qui est d'ailleurs le samedi sur Europe à la table des bons vivants avec Laurent Mariotte, a bousculé ses codes et a redonné l'envie du bistrot. Simplement, 30 ans après, eh bien, on est retombé dans des clichés. Aujourd'hui, la bistronomie, eh bien, elle a un menu unique, vous n'avez pas le choix. Là où il y avait un menu dégustation dans les grands restaurants, elle oblige quasi au vin nature.
Ouais.
Là où il y a 30 ans, elle s'énervait parce qu'il y avait forcément des grands pommards dans
Bien
les grands restaurants.
Avant, il y a le sommelier qui nous regardait de haut, et maintenant, si on ne prend pas un vin nature, on est regardé comme si on était un pestiféré.
Alors, à l'époque, ils n'aimaient pas non plus, vous savez, les services un peu raides comme la justice, avec le smoking et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas un tatouage, si tu n'es pas rasé, si on ne tape pas sur l'épaule, ça ne marche pas non plus. C'est une manière d'uniforme. Ils détestaient les nappes. Aujourd'hui, on n'a plus de nappes sur les restaurants. Donc, la bistronomie, je pense qu'elle est en fin de cycle. Il va y avoir d'autres choses qui vont la réveiller. C'est pas grave.
Merci beaucoup Emmanuel Rubin. Je rappelle, parce que c'était notre premier sujet, geste, ce nouveau trimestriel consacré au métier d'art. C'est en kiosque, ça coûte 20 euros et vous en êtes le rédacteur en chef avec Yamina Benahi. Merci d'avoir été avec nous sur Europe en direct. On vous entendra évidemment dimanche avec l'ami Mariotte.